Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouveau numéro d'une heure en série. Une heure en série, le fameux 55 minutes chrono pour débattre de l'actualité des séries et vous recommander le meilleur de la production télé grâce à l'avis affûté, parfois sévère, mais toujours juste et souvent corrompu. Hein, quand même, vous acceptez quand même beaucoup, beaucoup de cadeaux, je tiens à vous le dire, de nos chroniqueuses et de notre chroniqueur. Pour ce quatrième épisode, ce soir, nous parlerons faiseurs d'anges et nazis en fuite dans Shadowplay sur Canal+. Évidemment, il y en a qui traînent dans les manifestations anti-vax, donc on va essayer de le repérer. Docteur Maboul et Lombert en lambeaux, ouais, je suis assez fier de celle-là, de Docteur DS sur Starzplay, et nous finirons avec une piscine à sec et un père en détresse avec Hopville sur Arte TV.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir, élu pardon, à l'issue d'une primaire qui a été quand même extrêmement violente, les meilleurs chroniqueurs et critiques de séries télé, aka les docteurs fous aussi de la critique, hein, ça saigne au scalpel, ça je tiens à vous le dire, Ava Kahn de French Mania, bonsoir Ava, Marjolaine Boutet de Phosphore, bonsoir, et évidemment Benoît Lagane, le plus bouché d'entre nous, hein, le 5-7 de Mathilde Munot, évidemment tous les vendredis matins, et c'est un bonheur, et télématin deux fois par semaine.
Ça, bonsoir à toutes et à tous.
Voilà, quatre fois par semaine, Benoît.
Ah oui.
On vous aime. Merci. Alors, est-ce qu'on a un peu de courrier? Eh bien oui. Là, pourquoi je me pose une question à laquelle je réponds moi-même? C'est absolument pathétique. On va commencer par celui de Christelle. Oui, vous avez le droit de rire. Qui est ravie de nous retrouver, nous aussi, pour cette nouvelle saison. Elle espère que nous parlerons prochainement d'une pépite se trouvant sur Arte. Il s'agit de la série Quand revient le calme, une série danoise, qui, au moment de fêter les 5 ans des attentats de novembre 2016, résonnera dans la mémoire de chacun. Les acteurs sont fabuleux, t'as regardé en VO, c'est tellement mieux. C'est vrai, je ne l'ai pas regardé. Marjolaine, vous avez jeté un petit coup d'œil?
Oui, effectivement, en VO, c'est très très bien. Moi, peut-être qu'en ce moment, c'est un temps de procès, j'ai envie d'entendre autre chose et d'autres histoires, donc je ne suis pas tout à fait rentrée dedans, mais si elle a aimé, tant
mieux. Voilà, mais merci à Christelle.
Je vais donc redonner une chance à cette série prochainement.
Je suis sûr. Isabelle Henry, bonjour, chère fille d'équipe. Parce que vous ne voyez pas en dehors de l'émission. Hein. Alors, d'abord, vous remercier car les séries sont abordées sans honte et avec une réelle compétence. Ouais, compétence, t'es fait dedans. Mais aussi pour vous demander pourquoi vous ne parlez jamais des séries asiatiques. En effet, pour ma part, j'ai longtemps résisté à l'appel du soleil levant en me disant qu'il y avait déjà beaucoup de matière avec les séries occidentales et que ces séries asiatiques n'allaient quand même pas envahir mes petites cellules grises. Finalement, mes enfants, jeunes adultes, intelligents et ouverts au monde, entre parenthèses, c'est moi qui les ai faits, donc effectivement, elle sait de quoi elle parle, ont su me ramener sur les sentiers de l'ouverture d'esprit, tout ce roman pour vous proposer une émission sur ces séries et vous recommander Alice in Borderland, série japonaise, qui, comme d'autres, aborde des thèmes forts, connus, mais avec cette touche si délicate et originale. Bon, parfois, c'est un peu à l'eau de rose, les garçons pleurent pas mal, mais quand même, et assez rafraîchissante venant de l'Orient. Donc voilà, bon, j'avais recommandé Alice in Borderland. C'est pas vraiment ce que j'appellerais une série délicate à l'eau de rose, c'est quand même extrêmement violent. Mais oui, merci beaucoup Isabelle Henry, vous avez raison. Je vous promets d'inscrire très rapidement des séries asiatiques. C'est vrai que je donne toujours comme excuse le fait qu'elles sont très longue et que les épisodes font une heure et demie à chaque fois. Donc je ne veux pas non plus complètement martyriser mes chroniqueurs et en même temps maintenant je me demande
ça donne
si
des
je
idées,
vais
hein.
pas ouais, voilà. Tout de suite, si je ne vais pas envisager de le faire. On commence avec Shadowplay, une série allemande de 8 épisodes disponibles sur Canal+. Berlin 1946, la ville détruite est encore en cendres. Un jeune enquêteur de la police de New York est dépêché sur place pour seconder l'organisation d'une nouvelle police allemande. Il a pour adjoint une jeune femme sans nouvelles de son mari et un garçon juif à peine sorti de l'enfance et dont la famille a péri dans les camps. Notre héros n'est guère plus gazé par le destin, hanté par un passé traumatique et cherchant à retrouver son frère, qui a fait partie de ces soldats américains qui ont été les premiers à découvrir l'horreur de la solution finale. C'est dans cette ville, découpée en 4 secteurs et hantée par les fantômes du passé, que nos protagonistes vont traquer un mystérieux personnage, responsable de l'exécution au début de la série de 2 GI et qui se fait appeler le Engelmacher, le faiseur d'anges. Mais il n'est pas le seul monstre de Berlin. Un autre n'hésite pas à faire régner une loi du talion faite d'exécutions capitales et machiavéliques. Un démon d'une justice plus aveugle que jamais, cherchant à nettoyer Berlin de ses ultimes traces nazies et qui pourrait être beaucoup plus proche de notre héros que ne le soupçonne ce dernier.
My name's Max McLaughlin.
Why exactly are you here?
To help organize the German police force.
What do you know about fighting organized crime?
This is post-war Europe.
The whole situation is complex.
It's a fucking mess.
One big cake, four sectors, four nations.
We don't have resources. We're too inexperienced.
Everyone in this town carries a secret.
Shadowplay, une série écrite et mise en scène par Måns Marlin, pardon pour l'accent, cinéaste suédois, ayant réalisé au cinéma Underworld une nouvelle ère et ayant signé des épisodes de Jour polaire, la série de Canal, avec dans les rôles principaux Taylor Kitsch, Michael C. Hall et la sublime Nina Hoss. Oh oui. Vous ne dites pas un mot sur Nina Hoss qui ne soit pas un compliment. Côté de la presse, pour première, c'est un thriller âpre et violent, riche et ambitieux. Le Figaro évoque, lui, un thriller surchargé mais bien renseigné. Cher Benoît.
Mais moi, je vais penser plus comme le Figaro. J'ai trouvé que c'était une série à la fois complexe.
Voilà, c'est pas grave, on vous en veut pas.
À la fois complexe, elle m'a tour à tour. Alors, fasciné, agacé, passionné et puis un peu touché à un moment donné et puis au final assez fatigante au bout du compte. Alors au premier abord, je trouve qu'il y a vraiment une idée hyper intéressante de cette arène de Berlin 46, ville en ruine, ville qu'il faut construire et qu'il faut reconstruire, mais qu'il faut aussi déconstruire mentalement parce qu'il y a effectivement ce passé nazi très récent là qu'il faut évacuer. Donc tout ça est vraiment passionnant au départ, sauf que très vite on en vient à un thriller autour de ce tueur de nazis. Donc, et avec des questions familiales aussi. Alors, on a.
Dont l'identité quand même connue très vite.
Ah oui, bah, oui.
Tout à fait, un whodunit.
Oui, oui, mais il y a quand même la mécanique de la série tient sur le fait qu'on se dit qu'à chaque épisode, il va y avoir le nazi qu'on va tuer. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais ça, c'est, la mécanique est quand même, au début, fonctionne comme ça. Alors, il y a un grand plaisir à avoir Taylor Kitsch, Tim Riggins de Friday Night Lights, que l'on retrouve là dans le rôle principal. Donc, ça, c'est assez chouette. Il y a notamment un très bel épisode où, dans une rencontre avec la femme du vice-consul, je dévoile rien de leur histoire, mais ils ont une amitié et dans leur chambre d'hôtel, à un moment donné, il y a un montage comme ça de leurs échanges que je trouve très rythmé, très doux, très beau. Et donc, il y a vraiment des moments splendides dans la série. Sauf que c'est une série qui se veut chorale, ce Berlin en quatre parties avec plein d'endroits. Or, tous ces personnages qui existent autour de ce fameux enquêteur, eh ben, ils sont souvent délaissés. Alors, il y a une mise en scène un peu amusante. On les voit face caméra en train de se livrer un petit peu pour qu'on comprenne un peu qui ils sont. Sauf qu'en fait, à part ça, on les oublie très vite. Et moi, je regrette au fond que la série n'ait pas été une vraie série chorale, une vraie chronique de ce Berlin de 46, plutôt que de ce thriller finalement efficace, mais un peu fatigant.
Avec un Shadowplay sur Canal.
Ce que dit Benoît est très juste. Alors après, moi, j'ai un regard un tout petit peu plus sévère quand même sur la série. Elle m'a pas vraiment emballée. Et en fait, j'ai senti dès le premier épisode qu'entre elle et moi, le courant elle n'est pas vraiment passée, malgré mon admiration pour Nina Hoss, actrice allemande qu'on avait vue d'ailleurs dans Homeland, la saison 4, la saison 5 et la saison 6,
tout à fait.
Si je ne dis
Absolument.
Pas de bêtises. Alors, la première séquence du premier épisode, c'est un flashback. On voit un homme qui tue sa femme sous les yeux de ses fils, l'aîné riposte et tue son père. Donc on a vraiment le trauma original et puis vient ensuite s'ajouter à ça le trauma de la guerre. Et donc, c'est, tu l'as dit, Benoît, c'est à Berlin qui n'est plus que ruine en 1945 que Max, qui a grandi donc, qui est devenu flic comme papa, va se rendre pour aider à la création d'un genre de service de police. Voilà, un commissariat essentiellement tenu par des femmes, puisque les hommes sont morts à la guerre ou ont été immobilisés, enfin parce qu'ils sont blessés. Donc voilà, et franchement, ce personnage, en fait, je l'ai trouvé hyper cliché, hein, cet Américain qui vient résoudre les problèmes du reste du monde avec sa barbe de trois jours, son chapeau à la Dick Tracy ou Humphrey Bogart et son air un petit peu renfrogné. Donc voilà, en parallèle de ça, tu l'as dit, il y a des meurtres en série, il y a une chasse aux nazis. En parallèle de ça, il y a Max donc qui cherche son frère. En parallèle de ça, il y a Elsie donc jouée par Nina Hoss qui cherche son mari, un soldat allemand que les Russes tiennent captif. Donc voilà, je vous dis pas tout, mais ça fait beaucoup en fait. Et même si le jeu de piste, en réalité, il est pas complètement difficile à suivre, ben, j'aurais préféré moins de fioritures et une intrigue principale en fait plus solide. Qu'on se concentre vraiment sur la traque aux nazis, quoi, tout simplement.
Moi, j'ai bien aimé me perdre dans le labyrinthe de cette histoire, mais bon. Marjolaine.
Mais alors c'est drôle parce que vous n'avez pas du tout évoqué l'autre grande intrigue de la série qui est quand même ce fameux Engelmacher, ce faiseur d'anges, et la question des avortements clandestins, de la prostitution.
Oui.
Et effectivement, dans ce Berlin vidé de ces hommes allemands, les femmes sont livrées à elles-mêmes et évidemment, il y a
ils survivent comme elles le peuvent.
Il y a des soldats partout, de quatre forces occupantes différentes. Et moi, ça m'a évoqué quand même le Allemagne années zéro. Mmh. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à ces films de ruines et en particulier tous ces enfants aussi brutalisés. Ça m'a fait penser aussi au cinéma de Fassbinder. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant sur cette Allemagne détruite et sur les enjeux de sa reconstruction. Après, effectivement, c'est pas bien géré. Moi, j'attends, depuis la fin de Friday Night Lights, j'attends le retour de Taylor Kitsch. Mais vraiment, c'est toujours pas dans cette série-là que je vais retrouver mes émois d'il y a maintenant une bonne dizaine d'années.
Si c'est le seul filtre avec lequel vous regardez les séries, cher Marjolaine...
Oui, Taylor Kitsch, oui.
Va falloir un petit peu ouvrir, j'allais dire,
ouais,
votre
non,
horizon.
Mais Taylor Kitsch, c'est un arrêté. Voilà, Tim Riggins, bon.
Mais
je le regarde quand même avec mes lunettes d'historienne. Donc, j'ai vu l'ambiance film noir, j'ai vu les tas de citations. J'ai trouvé quand même qu'on est dans une vision, et là encore c'est ma casquette d'historienne, assez caricaturale, où déjà la guerre froide est là, où les soviétiques sont très 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 méchants, où on nous évoque déjà le blocus de Berlin qui ne va arriver qu'en 48, enfin voilà, où la RFA est déjà presque là. Ça manque de nuances, ça manque de clair-obscur, voilà, j'ai trouvé que... Ouais, les personnages sont effectivement pas assez travaillés et le personnage principal cache un peu le reste. Et les femmes et les enfants
les femmes,
auraient mérité davantage de lumière et d'être creusées parce que là, il y a des choses à dire et à écrire et à filmer.
Et un peu plus de Taylor Kitsch pour faire plaisir, évidemment, à Marjolaine.
Non, moins
d'évoquer Shadowplay sur Canal+.
Gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag. Do all-
Rose par David Bowie, une chanson que vous connaissez bien mais que vous venez d'entendre dans une version allemande. Une chanson pour dire la chute des héros, Bowie étant d'ailleurs le premier à s'enfoncer dans les volutes et précipices sans fin de l'alcool lorsqu'il compose ce titre qui accompagne son arrivée à Berlin pour fuir les nombreux mirages de Los Angeles. Un titre au lyrisme troublé qui vante à la fois les joies éphémères de l'ivresse et la douleur du réveil sublime, Bowie et intemporel, Bowie.
France Inter. Une heure en série.
Le moment est venu d'un conseil littéraire et je vous recommande la découverte de l'inspecteur Sadorski, Libère Paris de Romain Slocum qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Un conseil littéraire qui nous ramène 2 ans avant Shadowplay dont nous venons de parler et à plus de 1000 kilomètres de Berlin puisque Romain Slocum nous immerge dans le Paris estival et étouffant de 1944. Il y retrouve donc pour la 5e fois son héros Sadorski, héros en bien mauvaise posture puisqu'il est interné à la prison de la santé, accusé d'être un résistant. Ironie funeste mais savoureuse, pour le vrai salaud qu'est Sadorski. Oui, car ne vous me prenez pas, Sadorski est un pur produit des heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, version policier pétainiste. Lui qui a toujours soutenu le maréchal, comme d'autres aujourd'hui encore, voit d'un mauvais œil le fait de se voir accusé de trahison à cette France profonde, réac et non-juive qu'il aime et défend par-dessus tout. Ce n'est que le début des 600 pages de ce roman policier et historique qui mènera cette ordure de anti-héros à être le témoin de l'exécution de Georges Mandel, maté dans le sang et la violence. Les terreaux, entendez les terroristes, que sont à l'époque les juifs, les gaullistes et les communistes. Il va travailler aussi avec la Gestapo, ben oui, n'ayons peur de rien, et tenter de récupérer un fils qu'il a eu hors mariage. Sadorski, où le portrait tout en opacité et quelques contradictions du fonctionnaire assidu et zélé, infréquentable, mais qui, pour Romain Slocum, est un formidable moyen de raconter de l'intérieur cette période trouble, agitée et d'autant plus inquiète pour ces fachos ordinaires que les Américains viennent de débarquer en Normandie. L'écroulement d'un monde putride, vu à travers ce roman qui, grâce au style ébouriffant de son auteur, respire le bruit et l'odeur, la sueur et la saleté, la chaleur et l'anxiété de ces mois qui virent basculer notre histoire. Une fresque haletante, érudite, vue du côté des salauds, oui, mais qui, rappelons-le, aujourd'hui comme toujours, dorment régulièrement en paix. Alors, deuxième départ, Docteur Death, une série américaine en 8 épisodes disponible sur Starzplay. 8 épisodes glaçants pour nous narrer le destin véridique de Dr. Christopher Dunch, neurochirurgien aussi arrogant que douteux sur le plan des compétences, ayant provoqué tout au long de sa carrière des handicaps irréversibles chez ses patients, ainsi que quelques morts. Seuls 2 de ses collègues alertés par cette suite ininterrompue d'erreurs médicales ont tout tenté pour l'empêcher de nuire. Dr. Death est aussi en creux le portrait peu élogieux du système médical et hospitalier américain, un système libéral mercantile où le patient n'est qu'un moyen de se faire du fric. On ne recule devant rien pour facturer de l'acte chirurgical, quitte à mentir sur les possibilités de rémission des malades et se protéger derrière l'omerta des hôpitaux et les avocats en cas d'échec. Un système où vous n'êtes jamais responsable de rien, où votre réussite se chiffre en pouvoir d'argent et dont le Dr. Dunch était le plus pur et hélas le plus tragique produit.
J'avais très mal au dos depuis des années.
Fracture vertébrale après un accident de moto.
J'avais mal dans tous les os.
Et la douleur.
Je n'avais jamais ressenti une douleur pareille.
Un cauchemar.
Je vais te retaper.
J'ai commencé à les rassembler. Les dossiers de ces patients.
Il en est environ à 2 douzaines de chirurgies ratées.
Il avait l'air de savoir exactement quoi faire et...
Il a fait exactement le contraire.
La question n'est pas de savoir pourquoi il a fait ça, c'est de savoir comment il fait pour s'en tirer.
Il doit être arrêté à tout prix.
Il y a une raison pour que ça n'ait jamais été fait.
Ils vivent dans le passé, alors que je représente l'avenir.
On va rester là à se regarder ou on va se bouger le cul pour l'arrêter.
On est face à une putain de brochette de connards.
Il s'agit ni plus ni moins que de rentabilité. Est-ce que je me trompe?
Vous ne comprenez rien au type à qui on a affaire.
Si vous vous en prenez à moi, vous feriez mieux d'être prêt à affronter ce que je vais vous faire.
Docteur Death, une série, je vous le rappelle, donc inspirée d'une histoire vraie de Patrick McManus, auteur scénariste ayant travaillé sur Homecoming, Happy et Marco Polo dans les rôles principaux, dans celui du Docteur Death, Joshua Jackson et ainsi que Alec Baldwin et Christian Slater, qui commence Ava.
Sacré casting quand même, ah ouais. Faut le dire, c'est l'une des qualités mais en principale de la série, hein, c'est ce trio qui est assez assez brillant. Alors non, c'est une série très noire, inspirée donc comme vous l'avez dit de faits réels, qui porte un regard ouais très critique sur le milieu hospitalier américain. En fait, on essaie de comprendre comment ce médecin psychopathe qui est formidablement joué par Joshua Jackson a fait pour passer entre les gouttes, quoi. C'est le personnage d'Alec Baldwin d'ailleurs qui pose la question au premier épisode, parce qu'évidemment c'est ce qui nous interpelle tout de suite. Comment ce type a-t-il pu continuer à commettre ces atrocités sans jamais être inquiété par ses supérieurs? Comment l'hôpital a pu laisser faire ça et par conséquent se rendre complice de ces crimes? Alors on l'a entendu là au tout début de l'extrait, hein, il y a des témoignages des victimes, des hommes, des femmes qui avaient des problèmes de dos, qui ont été charcutés par ce monstre, voilà, et qui ont survécu mais pas sans séquelles. Et c'est terrible parce qu'on voit bien, hein, tout au long de la série comment ces patients, souvent démunis, vous l'avez dit, ont offert leur confiance à Dunch, qui va les abuser, qui va les mutiler, et voilà. On va aussi passer du temps dans la tête du tueur, donc c'est évidemment glaçant. Il y a un aspect à la fois true crime, mais qui est composé, voilà, avec cet aspect critique du système hospitalier, qui est corrompu, qui est vicié. Alors ce qui m'a un tout petit peu déroutée, c'est qu'on joue quand même la montre, parce qu'il y a des opérations qui sont planifiées, parce qu'il y a des vies qui sont en danger, mais le rythme est quand même un peu lent, parfois un peu ankylosé. Alors même si ce que j'ai vu m'a vraiment pas déplu, j'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu de nerf parfois. Hormis ce bémol, je trouve que la série est très soignée, les cadres sont posés, le montage est très audacieux. Quant à l'esthétique, elle est elle aussi glaçante. Hein.
Elle est clinique, photo, hein, clairement.
Voilà, c'est
oui.
Ça, il y a une photo qui tire vers les bleus, vers les verts, vers les jaunes, qui sont les couleurs en fait de la toxicité de cet environnement dans lequel on nous immerge. Donc voilà, petit conseil quand même, ne mangez pas devant les épisodes parce que certains sont hyper gore et qu'on entend quand même le bruit des os qui craquent et ça rend très nerveux.
Il y a quelques images d'intervention qui sont ouais. Assez secouante. Benoît, vous n'avez peur de rien.
Oui, non, mais justement, ce que je trouve, ce que vient de dire Ava à la fin sur le son, je trouve que c'est ça qui est vraiment la grande réussite de cette série, c'est que c'est adapté d'un podcast et qu'on a l'impression, notamment au début de l'épisode de la série, peut-être un peu moins au fil des épisodes, mais malgré tout, un travail sur le son. Et effectivement, ce que j'ai apprécié au fond, hein, entre gros guillemets apprécié, c'est qu'on entend de plus qu'on voit les atrocités que fait sur les corps le fameux Dr. Dunch. Donc ça, je trouve que c'était un vrai choix esthétique, un vrai pari et qui est très réussi. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Ava, quand tu dis que justement c'est un peu lent, parce que je trouve que justement quand on a entendu la bande-annonce qui fait penser à un gros thriller pompier, pas du tout. On est dans quelque chose de beaucoup plus psychologique et que moi j'ai apprécié justement d'être dans cette psychologie plus que dans le thriller haletant. Même si, et c'est ça qui est réussi, on est en permanence en train de se demander bon comment ils vont réussir à le choper. Donc c'est quand même très très réussi. Et ce que j'aime aussi dans le choix du casting, c'est que Joshua Jackson, en fait, c'est génial, enfin, que ce soit lui. Parce qu'il a cette bonhomie qui fait qu'on croit tout de suite, on est à la place de ses patients.
Petit visage foupon.
Voilà. Qui se font avoir.
Il joue dans Fringe, on va rappeler aux auditeurs.
Voilà, dans Fringe, dans The Affair, dans Dawson, bien avant. Et donc, du coup, on aime ce personnage. Et à la fois, ceux qui courent derrière lui, Kirby et Anderson, eux, donc Alec Baldwin et Christian Slater, eux sont finalement un peu froids, presque secs à côté de lui. Donc, en fait, je trouve que ça fonctionne très très bien, ce choix de casting. Et en plus, la question qui est posée, effectivement, Ava, tu le dis bien, c'est sur le système américain, mais au-delà du système médical, moi, la question que je me suis posée à la fin, c'est est-ce que finalement, c'est pas une critique de la face cachée, finalement, de l'American Dream? Et est-ce que Dunch n'est pas à la médecine ce que Trump a été à la politique, par exemple? Et j'ai perçu la série tout au long comme ça.
Ce qui est effectivement une belle grille de lecture. Marjolaine.
Bon. Alors, moi, j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'est pas ça. Non. J'ai trouvé cette série complaisante. J'ai trouvé effectivement qu'on en faisait beaucoup dans l'horreur, qu'on nous montrait beaucoup d'opérations, qu'on entendait beaucoup ces os, que les victimes, elles étaient vraiment très 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 victimes et que ce Dr. Dunch, vraiment, il est très méchant, il est détestable. Sa backstory, elle est prévisible du début à la fin. Rien n'est là pour le rattraper, rien n'est là pour nous le faire un petit peu aimer. C'est les deux médecins qui lui courent après. J'ai trouvé Christian Slater vraiment hystérique.
Non, c'est le lanceur d'alerte.
J'ai eu l'impression qu'Alec Baldwin...
Oui, mais qui partage avec le Dr. Death une certaine forme d'arrogance et d'autosuffisance.
Oui, mais les médecins sont très arrogants.
Et j'ai trouvé Alec Baldwin qu'on avait l'impression justement qu'il était encore en train de nous refaire son imitation de Donald Trump dans Saturday Night Live. Voilà. J'ai trouvé que les personnages féminins étaient sous-employés. J'aurais aimé qu'on voit un peu plus Grace Gummer. Je trouve que Anna Sophia Robb, dans le rôle de la jeune assistante du procureur, s'en sort très bien, mais elle arrive un peu tard dans la série. Enfin, voilà. J'ai trouvé ça très, très lourd. Effectivement, ça fait frémir. On n'a pas du tout envie d'être opéré. Donc, le résultat est là. Ça manque vraiment, vraiment de nuances, quoi.
Et cette dénonciation du système libéral américain qui permet donc à un médecin d'être inquiété dans un état et de recommencer entre guillemets sa carrière dans un autre.
C'est tellement absurde.
Et pratiquement les dossiers ne sont pas transmis et personne n'en sait rien. Ça vous a pas un peu inquiété?
Non, mais c'est ce qu'on voit dans toutes les séries médicales. On voit ça dans The Resident, on voit ça dans New Amsterdam. Enfin, ça m'a. Enfin, et avec plus de subtilité et de bons sentiments. Enfin, voilà, c'est le système des
États-Unis. Voilà, chercher des bons sentiments chez quelqu'un qui a quand même imposé un fauteuil roulant à la plupart de ses patients et la morgue à quelques autres.
Oui. Mais justement, le truc est tellement à charge qu'on a du mal à. Voilà.
Moi, je trouve qu'au contraire, ce qu'on voit, c'est que c'est pas. On n'a pas envie de pas être opéré. Enfin, on doit être opéré, il faut être opéré. Mais sauf qu'on a toujours besoin d'un deuxième ou d'un troisième regard, toujours, de pas se laisser duper. Bon, c'est ça la morale, je trouve. De la série, et je trouve qu'elle est en soi pas si mauvaise que ça.
Nous venons d'évoquer Dr. Death sur Starzplay. Je rappelle que Starzplay est disponible entre autres sur le bouquet Canal+.
Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance. Là où le vent m'emmène, je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Tu peux me voir dans le noir. Et peut-être que ce soir je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Je sais que j'ai tort de te faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice.
Le sang de mon prochain par la femme. Il y a toujours deux bonnes raisons d'attendre avec excitation un nouveau single de ce groupe à nul autre pareil. D'abord, la chanson en elle-même, hein, promesse à chaque fois tenue de décalage, d'humour à froid et d'insolite, alors contrat rempli avec cette romantique et sombre histoire de femme vampire qui, je les cite, a choisi la mort pour faire vivre l'amour. Un peu comme nous d'ailleurs. Hein. Et puis, seconde raison, il y a toujours un clip débridé, lyrique, qui est cette fois un hommage gourmand au cinéma de genre et en particulier au Rocky Horror Picture Show. Et moi, je dis, les gens qui citent le Rocky Horror Picture Show ont toutes notre admiration et notre affection.
France Inter. Une heure en série.
Il est un peu notre Frank Enfertner, n'est-ce pas? Louis Ramor, c'est l'effet miroir de Benoît Lagane. Et ce soir, eh bien, comme dans tout bon effet miroir, ce sont les actualités autour de la scène rap qui vous ont inspiré.
Exactement, entre l'annonce du retour des Fugees, le groupe passera par une tournée d'une dizaine de dates, et notamment en décembre en France, ou la réédition des albums d'MC Solar cette semaine, le rap des années 90 vit un sacré revival. L'occasion de rappeler que le rap a une longue histoire, et que les ados fans du rap des années 90 ayant bien grandi, on peut même dire que le rap est désormais une musique de presque vieux. Bon, j'exagère un petit peu. En revanche, ce qui est certain, c'est que le rap et certaines de ses figures deviennent en 2020 un pont entre les générations, et c'est exactement ce qu'ont bien compris les créateurs de séries. D'autant plus que le hip-hop et séries, c'est une histoire commune qui remonte quasiment au temps où MC Solar semait le vent et récoltait le tempo, avec aux États-Unis notamment un certain Prince de Bel-Air. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Le Prince de Bel-Air va d'ailleurs revenir dans une nouvelle version en 2022 sous la forme du drama, excite donc le format sitcom d'origine, une série qui raconterait, dit-on avec plus de véracité, le parcours du jeune Will, des quartiers populaires à ce plus chic de Philadelphie. C'est Will Smith qui produit la série qui s'appellera Bel-Air, un changement de ton qui est, au moins sur le papier, une bonne idée. Cela permettrait d'écrire un récit et des personnages à la psychologie plus complexe, et puis l'occasion aussi de démontrer qu'avoir la tchatche d'un gamin des quartiers, ça peut produire autre chose d'intéressant et pas uniquement qu'un effet comique. Le Prince de Bel-Air série de vieux va donc passer le relais à Bel-Air, série que l'on imagine plus transgénérationnelle, un peu comme quand la série Empire rejouait en 2015 le bon vieux soap à la dynastie, mais autour d'une famille d'un producteur légendaire de hip-hop, Lucius Lyon.
Et en France, cher Benoît, qu'en est-il ?
Eh bien, c'est grâce à des séries comme Seconde B, qui était notamment dans son générique infusé de sonorités de culture hip-hop. Seconde B, un sitcom à la française, c'est-à-dire sans public et pas très drôle. Hein. Mais c'était une sorte...
Je vous remercie, j'ai écrit un épisode.
C'était une sorte d'entreprise Hélène et les garçons, qui avait le mérite au moins d'être plus proche de la culture ado-urbaine de l'époque, et contrairement à la production d'Abbé qui était plus un roman photo avec des chansonnettes un poil daté d'Hélène et Séminé. Donc, mis à part quelques séries, notamment animées, je pense à Foot de rue ou encore Les Lascars, il aura fallu attendre très récemment pour que la culture hip-hop en France soit abordée de façon plus adulte, par exemple avec la série de Franck Gastambide dont la saison 2, validée, va revenir sur Canal+. C'est un mi-chemin entre le thriller gangsta et le show hip-hop, ou encore, et on en parlera sans doute ici, d'une série sur la place des femmes dans le rap et qui surfe donc sur le mode de l'éloquence, c'est Diana Boss sur France TV/. Deux exemples qui démontrent que les amateurs de rap d'hier sont devenus des auteurs et des producteurs de séries télé d'aujourd'hui, ce qui permet à ces productions d'éviter certains clichés ou alors de jouer avec. À ce propos, qui aurait parié il y a encore quelques années que Joey Starr incarnerait le nouveau prof à la mode dans une série sur TF1, le remplaçant, sorte d'instit des années 2020. Joey Starr en lieu et place de Gérard Klein, vous n'y pensiez pas? Ben, TF1 l'a fait.
Je ne demande pas un prof décalé qui fait un comme les autres.
Je suis Nicolas Valère, votre nouveau prof de français.
Non mais genre lui, il est prof de français.
La prochaine fois que tu me prends pour un con, c'est la porte.
Il recrute des SDF maintenant.
Alors c'est toi.
C'est moi quoi?
Bah la tête de con, il y en a toujours une au boulot.
Le monde de demain, comme le rap et NTM, c'est donc le monde d'aujourd'hui. Arte signe d'ailleurs une série en 6 épisodes sur l'émergence du mouvement hip-hop en France, et en particulier du groupe NTM. Le titre de la série reprendra d'ailleurs celui du morceau de NTM, Le monde de demain. Créé par Catel Quiléveré, Elie Cisterne, Vincent Poimiro, David Elkaïm, avec la collaboration de Laurent Rigoulet, de Cool Chain et de Joey Starr, cette série va arriver en 2022. Un nouvel exemple qui démontre que le rap peut infuser les récits en série. Qui sait, peut-être que le revival autour de MC Solar inspirera de nouveaux créateurs de séries, et qui sait, de nouveaux westerns. Un bon titre donc.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson.
Marjolaine connaît par cœur le titre. Une vraie jeune, quoi, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, cher Benoît, pour cette chronique, cet effet miroir musical et impliqué. Vous êtes bien dans Une Heure en Série sur France Inter avec Ava Kahen, Marjolaine Boutet et Benoît Lagane ce soir. Troisième débat, Hopville sur Arte TV, une série sud-africaine en 6 épisodes. Bienvenue à Hopville, petite bourgade écrasée de chaleur moite de l'Afrique du Sud. Une ville qui porte plutôt mal son nom puisque toute forme d'espoir y semble définitivement bannie. C'est là que débarque Amos, homme au lourd passé d'ancien alcoolique, et son fils Temba, récemment orphelin de mère, qui vient de se voir confier à contre-cœur à ce paternel qu'il connaît si mal. Appert qui a été nommé directeur des parcs et loisirs, chargé, pensait-il, de remettre à flot la piscine municipale, mission d'autant plus importante que son fils est un nageur de compétition. Las, la piscine est devenue une décharge publique, insalubre, et ce n'est pas demain qu'elle risque d'être ouverte, d'autant que le maire, paradigme de politicien véreux et corrompu, écartelé entre une épouse dépensière et une maîtresse fort ambitieuse, a décidé de raser l'édifice public, pardon. Bref, énoncé de cette manière, Hopville pourrait être un énième drame familial, comme les adore Benoît Lagan, n'était une écriture ironique portée par un humour limite absurde, le tout dressant en arrière-plan une topographie politique et sociale d'une Afrique du Sud à plusieurs vitesses.
Is this a joke?
Promise is pool, mate.
So?
I'll make you a pool.
Because you keep your promises.
I have to tell you, boy is a lot of hard work.
His mother's dead. What am I supposed to do? Bring it back
to love. As abantu ana balaba tsile ndawo ya bo.
Give it up.
Yazi ukuthi ike nginyamalala empilweni yakho. Won't happen again. Ngizowathola amandla.
Hopville, une série créée par Roger Smith et Michelle Rowe avec Temba Nanda. Nandada, pardon, et Junior Singo. Marjolaine.
Eh ben, j'ai trouvé que c'était un petit quinquin sud-africain.
Pas mal.
Que ah, y ouais, avait
pas mal. Bien vu.
Derrière cette fable, parce que c'est une fable, portée par l'amour d'un père pour son fils, on distingue tous les maux qui empoisonnent la société sud-africaine. L'héritage de l'apartheid, qui n'est jamais cité mais qui est toujours là, dans le fait que les vieux noirs ne savent pas lire, que tous les profs de l'école sont blancs et font de leur mieux pour parler très mal le dialecte de leurs élèves. Ces villes nouvelles, donc comme Hopville, qui ont poussé comme des champignons après donc la fin de l'apartheid, mais les infrastructures qui ne suivent pas. La crainte que l'immigration massive ne vienne remettre en cause les quelques améliorations de la condition des Noirs natifs, la corruption des élites politiques et de la police, qui évidemment pose des problèmes de développement. Malgré tout, c'est évidemment pas une série noire, c'est une série, c'est une série vraiment.
Je l'aurais pas tenté, mais bon, vous l'avez fait, quoi.
Très poétique, dans laquelle on s'attache au fil des épisodes à cette galerie de personnages qui incarne cette nation arc-en-ciel et multilingue, avec nuance et une certaine subtilité, même si quand même là aussi les méchants sont très très méchants, oui. Et le pauvre maire, il a vraiment toutes les tares, voilà. Mais moi, je me suis laissée embarquer. J'ai voyagé dans cette ville au milieu de nulle part et j'étais vraiment tout à fait charmée.
C'est vrai que le trait parfois un peu picaresque, très oui. Pittoresque, ouais. Mais il y a un charme fou. Ouais. Je suis totalement d'accord avec vous, Benoît.
Oui, alors moi je trouve que c'est un joli conte à la Frank Capra au final en 6 épisodes. J'aime enfin que des séries, parce que c'est vrai qu'on voit tellement de séries qui nous montrent des descentes aux enfers hein, ouais. Depuis quelques années. Là, c'est bien d'avoir en fait une série qui nous promet d'aller vers la lumière, et ils nous font cette promesse dès le départ et on sera pas déçu. Voilà, ça c'est ça qui est vraiment très agréable. Il y a bien évidemment tout ce que a dit Marjolaine sur le contexte sud-africain, mais effectivement si on écoute Marjolaine, il faut se dire que quand on regarde la série, si on sait pas tout ça, on ne le voit pas forcément. On est vraiment pris par la main dans cette histoire presque poétique, douce, avec
on cette... comprend quand même,
oui, on le comprend,
c'est...
mais si on
suit oui
c'est pas souligné, c'est un discours, voilà.
C'est pas une série à thèse ou ouais, ouais. Voilà.
Et ce que je trouve touchant, même si c'est très simpliste, il y a cette idée que le trou, la piscine, l'eau va sauver notamment un type de l'alcoolisme, par exemple. Enfin, je trouve qu'il y a cette idée de l'eau face à l'alcool. Enfin, typiquement la symbolique hyper basique, mais qui fait un bien fou, je trouve, à suivre. Il y a le nom de la ville, Hopville, forcément. Et quand on débarque là, on voit bien que bah non, c'est pas la ville où il va
faire poussiéreux. On va
voilà,
dire, ouais.
Très poussiéreux. Donc vraiment, je trouve ça très très réussi, frais, poétique, les comédiens sont vraiment exceptionnels. Alors après, il y a un rythme très lent, un poil daté peut-être. Et puis moi, j'aurais peut-être aimé pour le bémol que ces épisodes de 45 minutes durent peut-être 30, ça aurait gagné en intensité et là, ça aurait été vraiment presque un chef-d'œuvre.
on va rappeler pour ceux qui ne sont pas totalement anglophones que Hopeville, ça veut dire la ville de l'espoir. Oui, et évidemment, on comprend très vite que le nom n'est pas tout à fait en rapport avec la réalité. Je trouve qu'il y a des personnages absolument savoureux comme cette vendeuse de glace et son petit camion rose au milieu.
Tu sais qu'elle l'allume, on entend la musique.
Et qui ne sait pas très bien faire marcher les phares, ni la musique, ni comment l'arrêter. On n'est pas sûr que sur le plan de l'hygiène, les glaces soient totalement préservées et que la chaîne du froid soit respectée. Mais voilà, je trouve qu'il y a régulièrement des trouvailles même de couleurs et de mise en scène à l'intérieur de ce cadre qui fonctionne extrêmement bien, c'est soigné. Et puis il y a quand même un humour. La secrétaire du maire, elle a hurlé de rire quand même. Alors c'est plutôt bien dosé entre personnages vraiment de tragédie et d'autres de comédie. Avant.
Mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les thèmes sont en réalité assez difficiles, assez durs. Mais la série les traite sans gravité, sans tragédie. On est à cheval, vous le disiez tous les deux très justement, entre le drama, le western moderne, la fable, le soap parfois. Donc voilà, on a les curseurs qui sont mis à plusieurs endroits. Et je trouve ce mélange des registres et des tonalités très réussi. La musique aussi vient amplifier cet effet-là. Elle est à contre-courant des bandes sonores qu'on a l'habitude d'entendre. Elle ponctue les actions, elle lui donne encore plus de caractère. Il y a des thèmes qui swing, on entend des bruits de cymbales, des riffs de guitare comme ça, un petit peu burlesques, qui viennent encore une fois souligner l'action. Donc il y a tout un habillage musical qui m'a pas laissé insensible. Moi, j'ai été séduite par la photo, par la mise en scène, par les personnages évidemment qui m'ont émue, à commencer par ce père veuf qui cherche du travail, qui a du mal à communiquer avec son fils, qui vit très mal ce changement de vie et d'adresse. Et du coup, ce père va se mettre en tête de rénover la piscine pour que son fils puisse vivre son rêve de natation. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, Benoît. En ce moment, on voit que des séries un peu terribles, plombantes, Et cet optimisme, il est vraiment pas désagréable. Donc, je recommande aussi, comme mes camarades, cette super série. Très belle découverte.
Et la bonne idée, c'est qu'on ne situe pas très très bien la période dans laquelle se déroule. Il n'y a pas de téléphone portable, il y a des talkie-walkie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de réseau? Enfin, voilà. Et je trouve que c'est une bonne idée aussi.
C'est presque une ville de western.
Mais ce que disait Marjolaine, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de raconter une Afrique du Sud qui a été oubliée après l'apartheid, laissée à elle-même et à la corruption des petits fonctionnaires. Oui. Benoît qui veut toujours finir.
Un dernier détail, c'est-à-dire que sans rien dévoiler de la fin, mais justement la fin témoigne de l'originalité de la mise en scène et des choix esthétiques de cette série qui va vers quelque chose de forcément gay. Voilà.
Oui, feel good à la fin.
Voilà. Ouais. Eh ben, ça fait du bien. Je suis ravi que vous ayez, comme moi, apprécié cette série. Je me suis dit, est-ce qu'elle est un tout petit peu fragile, on va dire? Et oui, elle l'est. Mais en même temps, elle est super attachante. Donc, c'est un peu notre coup de cœur de la semaine. Parce que oui, nous avons un cœur. Et ça ne s'entend pas toujours, mais je peux vous le promettre. Hopeville sur Arte TV.
I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in the tongue. That's been corrupted, no substance to be hidden from. Now we see roughly rough forth from a dream. A stream underwater without a hops in the scene. Not the pacifier, but homie, the truly changed. When you step at the heavens, you see the stars are rearranged. So be evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than sofas, lather, don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the darkness will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, things that cause casualty to your soul, let it go.
Hopeful par Curtis Harding. Qu'est-ce que c'est bien.
Qu'est-ce que c'est bien.
Nous sommes bien d'accord.
Excellent.
Le chanteur originaire du Michigan rompt avec ce titre un silence de près de 3 ans pour apporter sa voix dans tous les sens du terme au mouvement Black Lives Matter. Tout un manifeste qui convie le gospel et le blues des guitares électriques comme une mémoire toujours vibrante de la musique noire américaine, une musique inspirée et impliquée sur laquelle il pose sa sensualité et la chaleur de sa voix.
France Inter, une heure en série.
Et on a du temps pour le plateau télé, donc je vous recommande d'être généreuse, puisque Benoît n'y participera pas pour l'instant. Bah oui, voilà, vous avez le droit de vous reposer un tout petit peu, cher
Merci,
Benoît.
Xavier.
Donc Ava, vous nous recommandez Foodie Love sur Arte.
Tout à fait, Arte TV même. C'est une mini-série espagnole signée Isabelle Cuajet. Alors je sais pas si je le dis bien.
Oui, il y a eu débat avant l'émission. Voilà.
C'est 8 épisodes de 30 minutes qui mettent l'eau à la bouche, hein, et en scène 2 trentenaires, amateurs de cuisine qui ne cherchent pas seulement les bonnes adresses pour aller dîner, ils cherchent aussi l'amour.
C'est un peu vous, quoi.
Et bah ouais, voilà. Bah moi, j'ai fondu, en tout cas. Bah, Foodie Love, c'est le nom de l'application, justement, sur laquelle ils se sont inscrits. Et on va donc suivre les pérégrinations dans des cafés et des restaurants de ce mathématicien blasé et plutôt séduisant, je te le dis, Marjolaine, et de cette jeune femme qui travaille dans le monde de l'édition et qui a le cœur en miettes. Alors, entre petits plats, confidences à table et tout, on est servi. La série est charmante. C'est une friandise de Noël avant l'heure. On entend les pensées des personnages, comme dans certaines comédies de Woody Allen. Elles sont parfois inscrites dans des bulles. Oui, vous avez compris, hein, pourquoi inscrites dans des bulles comme dans une BD. Donc voilà, je trouve ça très inventif. On rit, on salive devant les assiettes qui valsent. Ramen, gyoza, glace à l'italienne, café latte, thé parfumé. Voilà. Donc je vous recommande cette série parce qu'elle fait du bien, celle-ci aussi. C'est à dévorer donc sur Arte TV. Et vous me direz ou pas si le croissant parfait existe selon vous après avoir vu la série. Voilà.
Mais on le cherche, en tout cas. C'est un peu comme l'amour, on cherche le croissant parfait. Merci beaucoup Ava. Foodie Love sur Arte TV. Marjolaine, vous allez évoquer The Chair, une série diffusée sur Netflix, avec une autre actrice que nous vénérons ici. À côté de Nina Hoss, il y a Sandra Oh, bien sûr.
Donc évidemment, une sitcom avec Sandra Oh qui évoque pour la première fois...
Ah mais n'importe quoi avec Sandra Oh. Hein. Ouais. Une vignette, une image muette, je m'en fous. Sandra Oh.
Sandra Oh, en plus, qui joue... mon métier, c'est-à-dire que c'est une sitcom dans le milieu de l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur des humanités et des sciences sociales, donc aux États-Unis. C'est une série qui a le mérite de pointer les difficultés du changement du métier à une époque où les étudiants sont de plus en plus politisés et mobilisés, où les réseaux sociaux transforment la moindre petite phrase et mauvaise blague en cours
geste.
En événement diplomatique. Effectivement, là, dans ce cas-là, c'est un geste. Qui pointe le fait des positions d'enseignants, en fait, jusque-là tranquilles dans leur job à vie et leur position d'autorité, et qui sont désormais fragilisés face aux changements sociaux parce que là encore, l'école et l'université sont vraiment au centre de la société. Ce que la série montre aussi très bien, c'est la passion, enfin, je trouve, qui anime ces universitaires, qui font passer leur vie professionnelle avant leur vie privée, parfois pour des réunions qui, peut-être pour des gens extérieurs, paraissent totalement absurdes, et elles le sont. Mais aussi leur passion d'enseigner et d'être face aux étudiants. Et je trouve que ça, c'est bien vu. Voilà, ça pointe les problèmes sans vraiment donner de solution. Et je voudrais aussi souligner la qualité des coiffures des universitaires. Je peux en parler.
On ça avait ne s'invente une... pas. Ouais.
qui sont d'une justesse qu'il faut souligner. Voilà, c'est... Ces 6 épisodes de 30 minutes, ça passe très, trop vite. Mais le casting est absolument formidable. Et Ava...
Ouais. En plus de
sur
Sandra Oh, qui est fabuleuse. Non, pas sur la coiffure, mais sur le casting. Il y a une super nana, justement, qui s'appelle Nana Mensah, qui joue une jeune professeure qui a du mal à monter dans la hiérarchie de cette université. Elle est fabuleuse et c'est aussi une grande réalisatrice. Vous allez entendre parler d'elle.
Et puisqu'il refuse, évidemment, de céder la parole, Benoît Lagarde.
juste, moi j'aime bien les petits vieux de l'université dans cette série. C'est le mieux pet show à l'université. Et ça, je trouve ça plutôt agréable aussi à regarder.
Bon, bah Marjolaine et toute la bande vous recommande The Chair sur Netflix. Moi, je vous recommanderais la 3e saison de Sex Education, évidemment que nous adorons depuis la première saison. Changement de régime cette année à Mourdel qui voit une nouvelle directrice. Alors, faussement complice en apparence, mais vrai facho en profondeur, qui veut remettre de la morale et de la virginité dans ce que l'Angleterre au complet appelle l'huissier du sexe. Pourquoi est-ce que je n'y suis pas? Allez, c'est une question que je me pose. Sinon, le premier épisode met en pièce le principe scandaleusement mensonger de « la taille, ça compte ». Hein, Benoît, vous êtes d'accord avec moi? Et aussi, il va perdre sa virginité déguisée en macaroni au fromage. C'est toujours aussi fou, c'est toujours aussi queer, ça déculpabilise absolument les étudiants, les lycéens, les adolescents et les adultes. C'est une série qui nous invite à aimer et à baiser, moi j'ai envie de dire.
Et la BO, elle déchire.
Toujours Sex Education, saison 3 sur Netflix. Après ce grand moment de poésie, je suis au regret de vous dire qu'une heure en série, c'est fini. Voilà. Et je sais que vos petits cœurs sont meurtris, mais néanmoins, nous nous retrouverons la semaine prochaine. En tout cas, mille merci à vous, Ava, Marjolaine et Benoît, d'avoir animé avec autant de talent cette heure en série. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir, bien sûr, écouté. Nous vous avons recommandé cette semaine, ou pas, Shadowplay sur Canal+, Dr. Death sur Starzplay et Upville sur Arte TV. La semaine prochaine, nous évoquerons Une affaire française sur TF1, Only Murders in the Building sur Disney+, et Frérot sur OCS. Rendez-vous demain à 20h avec Jérôme Garcin pour un masque et la plume consacré au cinéma avec entre autres au programme le nouveau film de François Ozon. Une heure en série, une mission à réécouter en podcast, l'émission et évidemment les films miroirs de Benoît Lagan. Il y a un site internet, envoyez-nous vos courriers, vos recommandations, vos critiques, un compte Instagram où vous pourrez découvrir chaque semaine le programme de l'émission. L'émission a été réalisée comme toujours et comme personne, j'allais dire, par Marie-Annick Rimbaud. La programmation musicale assurée par Valentine Chédebois. Un petit coucou à Muriel Pérez qui n'est pas là en ce moment, qu'on adore évidemment et qu'on embrasse parce que je crois qu'elle écoute l'émission. J'ai eu le plaisir de préparer cette émission avec Amel Kaldi et ce soir à la technique, Ronan Maé. Mais tout de suite, 2 heures de musique à suivre avec en maître de cérémonie Mathieu Conquet qui nous en dit un petit peu plus. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Xavier, et oui, 2 heures de très bonne musique vous attendent. L'actualité, les nouveautés, ce sera 22h avec Et je remets le son. Et avant ça, c'est un DJ qui prend les commandes du studio. Ce soir, ce sera la radio de Boom Bass. A tout à l'heure.